Alors, je m'appelle Jorge Magasich, ou Jorge, si on le prononce en espagnol. Donc, je suis historien, professeur à l'IEX et arrivé en Belgique comme exilé chilien l'année 74.
Est-ce que tu peux me, disons, me tracer un peu un panorama des médias, ce qu'il y avait lorsque Allende est arrivé au pouvoir?
C'était un panorama bien pluraliste. Donc les milieux conservateurs chiliens avaient bien sûr des journaux. On peut citer le Mercurio qui est connu, d'ailleurs parce que c'est actuellement le plus ancien journal en espagnol qui existe. Donc il existe celui de Valparaíso en réalité, depuis 1827. Et ensuite la Tercera, la Segunda qui appartient au Mercurio, las Últimas Noticias. Et du côté gauche ou centre-gauche, il y avait un premier quotidien qui était le Clarín, qui était un journal populaire, disons, people, donc beaucoup de sport, beaucoup de presse rouge, de jolies femmes, mais les contenus étaient plutôt de gauche. Ensuite, El Siglo, qui était le journal officiel du Parti communiste, Puro Chile, de l'Unité populaire, et Ultima Hora, qui était des mouvements socialistes. En plus, le président de la République a pour lui la nation. Donc l'État met un quotidien à disposition du président de la République, quel qu'elle soit.
On a parlé du rôle important joué par les médias dans la déstabilisation, dans le processus de déstabilisation du gouvernement de Salvador Allende, et puis dans le coup d'État. Le Mercurio est, on va dire, un peu le journal d'avant-garde de cette déstabilisation, de la déstabilisation médiatique. Et entre autres, son patron, un certain Agustín Edouard. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer tout le processus, qu'est-ce qui s'est passé au niveau médiatique pour déstabiliser Allende et parler entre autres du rôle de ce monsieur?
Bien, on se limite maintenant à la presse écrite, parce qu'on pourrait parler aussi de la télé, la radio. Mais sur les plans des journaux, quand Allende arrive au pouvoir ou peu avant, il y a trois nouveaux journaux qui seront édités. Un premier qui était plutôt pour Allende, pour le Chile, donc c'était le journal de l'Unité populaire qui tirait avant 5000 exemplaires, et d'opposition à Allende, la Prensa, plutôt démocrate chrétien, et Tribuna d'extrême droite, et quand je dis extrême, il faut mettre une majuscule, et donc très de droite. Mais en réalité, les buts, surtout de ces derniers, qui maintenant l'essai a été financé pratiquement entièrement par la CIA, c'était un journal qui n'avait pratiquement pas de contenu. Si on ouvrait ses pages, vraiment, il n'y avait presque rien à l'intérieur. Et ce qu'il y avait à l'intérieur n'avait aucune importance. En fait, au Chili, il y a une tradition jusqu'aujourd'hui d'étaler la une des journaux dans tous les kiosques de journaux, et les gens ont l'habitude de les lire toutes. Donc, ce qui faisait en fait ces journaux, c'était une affiche virulente contre Allende tous les jours, donc, qui quotidiennement changeait et qui orchestrait les campagnes, qui changeait très vite. Et un jour, disait, voilà, Allende est en train de céder un port aux Russes. Et on parlait de ceci pendant 2-3 jours. Puis on l'oubliait, on passait, voilà, il y a 30 000, une armée de 30 000 Cubains qui est entrée au Chili. On parlait de ça pendant 2-3 jours. Et ensuite, il disait, voilà, il y a un tel ministre qui est corrompu, on l'inventait, beaucoup de propriétés, des voitures, tout ça, et puis on passait à un autre. Ensuite, il parlait d'une invasion étrangère quelconque qui s'est préparée. Donc, les débits des mensonges étaient tellement rapides qu'Allende n'avait pas le temps de constituer un dossier, parce que répondre à ça, ça prenait au minimum une semaine, mais dans une semaine, il savait déjà passer à autre chose. Donc, c'était un très grand débit des mensonges qui prenait chacune 2-3 jours. Et ce qui a rendu hystérique une partie de la classe moyenne qui a commencé à croire à tout ça.
Oui, donc sur le. Et là-dedans, est-ce que tu peux un peu expliquer le rôle du Mercurio et de son propriétaire dans la déstabilisation?
Son propriétaire, en fait, qui est jusqu'aujourd'hui une des grandes fortunes de Chili, et prend contact avec l'administration des États-Unis avant l'élection présidentielle, donc vers les mois d'avril-mai 1970. Il était, je pense, un des grands actionnaires de la Pepsi-Cola, et je crois qu'à l'époque, il était le vice-président. Donc il est introduit, en fait, par Rockefeller, qui lui présente Kissinger et ensuite Nixon, et tout de suite après l'élection d'Allende, il a une réunion avec Nixon où il lui conseille apparemment de tenter d'empêcher par tous les moyens l'élection d'Allende, lui disant que sinon le Chili deviendra un pays communiste. Et c'est suite à ces pressions que s'organisent les comités 40, qui n'est pas un comité formé par 40 personnes, mais il a été formé par le mémorandum 40, qui étaient les comités qui autorisent les actions illégales, les actions conspiratives que les États-Unis faisaient à l'étranger. Et tout ceci est extrêmement bien connu parce qu'il y a une commission d'enquête du Sénat américain, on a beaucoup parlé dans ces jours de ce rapport qui s'appelle « Cover Action in Chile ». Et donc on connaît les tenants et les aboutissants, mais finalement, ces comités 40 autorisent l'emploi des fonds secrets pour des montants de plusieurs millions de dollars, on va à peu près jusqu'à 10, qui financent essentiellement El Mercurio d'abord, et ensuite les nouveaux journaux que je viens de citer, le Tribuna et la Prensa. Ils financent aussi des radios, des TV et des partis politiques d'opposition. Donc la création des groupes d'extrême droite, Patrie et Liberté, a été pratiquement entièrement financée et par ces dollars venant des États-Unis, et plus tard ils vont financer la grève des camionneurs. Alors, ces comités 40 donc, autorisent ces actions, et en réalité, la décision de perpétrer un coup d'État au Chili est prise en septembre 1970, c'est-à-dire avant qu'Allende ne soit président en exercice, après l'élection d'Allende, mais avant la passation du pouvoir. Donc, forcément, ce n'est pas les mesures qu'Allende a prises dans un sens ou dans l'autre qui ont provoqué un coup d'État. La décision de faire un coup d'État était prise avant son arrivée au pouvoir.
Concernant justement El Mercurio a été intégré notamment par ce qu'on a appelé les Chicago Boys, donc un peu les théoriciens de l'expérience néolibérale. Est-ce que tu peux expliquer ce processus ?
Oui, et il y avait, en fait, je commence un peu avant, mais dans les années 50, 56 exactement, la faculté d'économie de l'Université catholique de Santiago a signé une convention avec l'Université de Chicago. Et alors, ce qui fait que beaucoup de professeurs d'économie donc ont fait ses maîtrises et ses doctorats à Chicago. Et ce qu'il a enseigné à l'Université catholique, c'était une des premières écoles en fait, où le néolibéralisme a été enseigné. Et donc, il prenait de réduire les taxes douanières, la liberté des prix, diminuer toute protection, etc. Et l'année 70, donc l'année de l'élection présidentielle, les candidats de droite adversaires d'Allende leur invitent à rédiger le chapitre économique de leur programme, qui est ce qu'ils font. Et alors, à ce moment-là, les candidats, cependant, rejette en fait ce programme. Il leur dit qu'il est tellement virulent que les mesures, il faut l'appliquer graduellement, mais finalement, ce programme n'est pas accepté. Mais ce qui est intéressant, c'est que la même équipe a été réactivée fin 72, cette fois-ci à la demande de la marine qui préparait les coups d'État. Et cette équipe, en fait, est chargée de faire les programmes économiques de la future dictature. Donc, en parallèle, si un groupe de militaires conseillés par la CIA préparait les coups d'État d'un point de vue technique militaire, en parallèle, il y a eu une équipe d'économistes, ils sont à peu près une dizaine, je peux citer les doyens, c'était Sergio de Castro, qui a été plus tard ministre des Finances de Pinochet, et d'autres préparent en fait ces programmes. Maintenant, que disaient-ils ces programmes ? Ces programmes qui ont été publiés en 92 prenaient donc, ils voulaient dévaluer, ensuite enlever tous les subsides à l'enseignement et à la santé aux pensions. Donc ils voulaient rendre, c'est clair, l'éducation payante. Ils prennent l'introduction de la taxe à la valeur ajoutée, qui aujourd'hui existe dans presque tout le monde, mais à cette époque-là était une nouveauté, donc la TVA. Est inscrite dans ces programmes, ils éliminaient toute protection, c'est-à-dire diminuer les taxes douanières. Ils parlaient en fait de les réduire à 30%. Aujourd'hui, c'est 3 ou 4. Donc la réalité va au-delà de ces programmes actuels. Et surtout d'enlever tout subside aux produits de base, comme les pains, les laits, ce type de choses. Mais la véritable question, c'est que je pense que ces programmes ne pouvaient pas être appliqués en démocratie. Donc ces programmes avaient besoin d'une dictature. Parce que même si Allende démissionnait, comme il a été question à un moment donné, restaient les partis politiques, les syndicats, la liberté de presse, qui pouvaient finalement canaliser des réactions populaires contre ces programmes. Donc je pense que l'application de ces programmes demandait une dictature. Et ils ont eu la dictature.
Continue à analyser un peu le rôle de la presse. Si je te dis plan Z et caravane de la mort, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ?
Oui, les plans Z étaient un mensonge, en fait, maintenant qui a été reconnu même pour son inventeur, mais étaient c'est que les pinochettistes, les plans qu'ont inventés les pinochettistes pour expliquer les coups d'État. Il disait à peu près ceci, il y avait au Chili une armée secrète de 30 000 Cubains, que personne n'a jamais vu, et avec les extrémistes de gauche, il était prêt à faire un coup d'État dans lequel Allende allait exterminer tous les commandements de l'armée, les dirigeants de droite de l'opposition allende. Donc Pinochet n'a fait que s'avancer à ses plans 7, et s'il a commis l'un ou l'autre excès, disent-ils, c'est bien un peu des choses par rapport à tout ce que les plans 7 allaient perpétrer. Et ce plan 7, j'écris d'ailleurs en demandant à Jean qui affirme qu'il existe ou que les historiens peuvent le consulter. Mais en fait, ça n'existait pas. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas moyen de consulter le plan 7. Maintenant, on sait qui a été son inventeur, a été un ministre d'éducation d'Allende, donc, qui est d'ailleurs un historien d'une certaine renommée, Vial Correa. Et il a expliqué à la presse, à la Tercera, que la marine lui a ramené un document qui était apparemment un vrai document de la commission militaire du Parti Socialiste, auquel il a rajouté beaucoup de choses. La marine ensuite a dessiné une Z dans toutes les pages de ces documents, et ils ont rajouté un deuxième document qui est inventé, disant que les gens, que la gauche voulait tuer tout le monde. Et ça a été publié anonymement en 73 sur un livre qui s'intitule « Les livres blancs ». Maintenant, les vrais auteurs des livres blancs sont connus depuis pas longtemps, dont lui, donc Vial Correa.
C'est le ministre de Pinochet, tu veux dire. C'est le ministre de Pinochet. Parce que tu avais dit d'Allende, c'est ça, il faut préciser.
Non, c'était un lapsus. Donc Vial Correa était ministre de Pinochet, ministre de l'Enseignement, et il a fait partie de la commission Vérité et Réconciliation, de la commission aujourd'hui est un historien d'une certaine renommée.
Justement, est-ce que tu peux me parler maintenant de la caravane de la mort, qui a un rapport, certes, avec ça ? Selon ce que j'ai compris ici,
je pense pas qu'il y ait un rapport. La caravane de la mort, en fait, c'est un groupe de militaires qui part dans un hélicoptère exactement le 30 septembre 73, après le coup d'État, et qui va parcourir plusieurs garnisons de Provence, où il y avait des prisonniers. Mais en Provence, jusque-là, les coups d'État n'avaient pas été extrêmement virulents, et en fait, ils vont choisir on ne sait pas très bien dans quels critères, des prisonniers et les exécuter d'une manière horrible. Donc ils n'ont pas simplement été fusillés, mais on les a découpés en morceaux, ils sont tirés d'abord contre les jambes, contre les bras, et ensuite tués. Et donc ceci, c'est pas systématiquement dans plusieurs villes, notamment du nord du Chili. C'est ça la caravane de la mort, la totalité des victimes totalistes, donc les victimes totalistes 72. Et il y a maintenant des procès en cours. Le seul procès d'ailleurs qui était tenté contre Pinochet au Chili était bien celui-là, parce qu'il y a des documents qui prouvent qu'il a organisé la caravane de la mort.
Por esto muerto, nuestro muerto. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en sus casas tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo, quiero castigo, quiero castigo.
Sous la dictature, il n'y a pas effectivement toute la presse écrite de gauche et de centre mur la loi. Il y a à cette époque-là 22 journalistes qui se comptent parmi les disparus et d'autres qui ont été victimes, dont les corps ont été retrouvés. Et une partie de la presse des droites disparaît également, mais pas parce qu'elle a été interdite, simplement ces journaux qui étaient créés que pour lancer des mensonges contre Allende, comme Tribune ou La Presse, quelques mois après les coups d'État disparaissent également. Donc il reste que El Mercurio, La Tercera, essentiellement, et Las Últimas Noticias, comme la presse de droite, donc les journaux diminuent beaucoup. Et ils sont d'ailleurs très peu achetés, et la lecture des journaux diminue énormément. Ça a été mesuré. Maintenant, est-ce qu'il y a une presse opposition? En fait, oui, et d'une manière assez courageuse. En fait, la première revue un tout petit peu dissidente, qu'on peut, disons, c'était une revue de centre-droite, mais qui n'était pas inféodée à la dictature, était la revue Hoy, qui naît à la fin de l'année 77. Mais ça, c'est parce que les États-Unis ont exercé des pressions sur Pinochet pour qu'il donne en fait une place à la démocratie chrétienne. Donc c'était une revue essentiellement contrôlée par les partis démocrates chrétiens, mais où on passe les toutes premières articles très légèrement dissidents de Pinochet. Ensuite, il y a eu deux autres APSIS qui étaient, en fait, ça existait avant, donc une petite revue qui se vendait par souscription et qui était simplement une information de presse internationale, qui avait donc l'autorisation d'exister et qui change sa nature sans changer l'institution légale et devient en fait un bimensuel et qui commence à sortir dans les kiosques vers l'année 80. La même chose était la revue Analysis, qui était une revue qui appartenait en fait à l'Église et qui était d'abord une revue qui n'existait qu'à la subscription, mais qui, sans changer, donc qu'il avait l'autorisation de paraître, et qui change un peu sa nature et qui paraît dans les kiosques aussi vers l'année 80. Alors, la situation a été bien sûr très difficile. Les directeurs de ces revues ont été emprisonnés plusieurs fois. Et on se rappelle de la situation du directeur d'Analysis, Juan Pablo Cárdenas, qui a été condamné par exemple à 1 an et demi de prison le soir. Donc il pouvait sortir à 6h du matin, diriger son hebdomadaire, Analysis, mais il devait rentrer en prison à 18h du soir, et comme ça pendant 1 an et demi. Et donc, dans des situations très difficiles, menaces, perquisitions, ils ont été souvent fermés. Mais vers la fin de la dictature, il y a quand même un certain pluralisme qui a été obtenu. Donc, il existe les bimensuels APSI, les mensuels Analysis, OI, qui était également un hebdo, l'hebdo Analysis, pardon. Et ensuite, il y avait deux quotidiens, plus ou moins dans la mouvance du Parti démocrate chrétien, La Época et Fortín Mapocho, et encore une autre bimensuelle Causse. Et qui sont arrivés à des tirages jamais vus. Analysis a atteint les 60 000 exemplaires par semaine, c'est un record que jusqu'à maintenant plus personne n'a égalé au Chili. Et cependant, on verra par la suite qu'aucune de ces publications n'existe aujourd'hui. Sous la dictature, d'ailleurs début des années 80, El Mercurio était au bord de la faillite. Enfin, plus qu'au bord de la faillite, il était pratiquement en faillite, comme La Tercera. Et la dictature donc a fait fi de ses doctrines du libre marché et a donné à El Mercurio un subside d'environ 100 millions de dollars et à La Tercera de 25 millions de dollars. Les mécanismes étaient les suivants. En fait, c'est la banque centrale qui appartenait à l'État qui a fait un emprunt, mais ensuite, la même emprunt a été vendue à une banque privée à moins d'un quart de sa valeur. Donc c'était un cadeau fait de cette manière à El Mercurio. Là, disons, les lois du marché ne s'appliquent pas. Alors, après 1990, donc à la fin de la dictature et au début de la période dite de transition, El Mercurio bénéficiait de ses subsides et il continue à bénéficier de la publicité d'État. Du gouvernement de transition, c'est surtout sur El Mercurio qui la place parce qu'il est très puissant. Mais il arrive que aussi bien les hebdos qui existaient, donc Analysis, Sapsi, OI, Cause, donc tout cela demande à l'État maintenant un certain subside en disant en compensation, ben voilà, et les journalistes ont été disparus, nous avons été plusieurs fois en prison, la dictature a donné 100 millions de dollars à El Mercurio, on voudrait simplement de pouvoir payer nos dettes qui étaient de quelques centaines de milliers de dollars, même pas un million. L'État répond non. Et ici, c'est la libre concurrence, donc il faut laisser les marchés jouer. Donc les marchés n'avaient pas été égaux, parce que d'un côté, il y avait disparu, et de l'autre côté, il y avait 100 millions de dollars. Mais ensuite, il constate que même s'il vendait plus que les hebdos de droite, la publicité allait aux hebdos de droite, et pas seulement celle des firmes privées. La publicité de l'État allait plutôt à El Mercurio et pas à la presse qui était plutôt modérée. Hein. Je parle d'une presse qui était démocrate chrétienne, ou même sociodémocrate, mais où il y avait une place aux problèmes des droits de l'homme, aux problèmes sociaux. Et jusqu'il y a quelques mois, je pensais que la presse avait fait faillite à cause de ça. Mais ensuite, non. Maintenant, on dispose des documents, et la situation a été pire, en fait. Les gouvernements d'Elwin et a monté une équipe.
Donc Elwin, tu peux rappeler quand c'est le premier président élu.
Le premier président élu, donc par la concertation, la coalition des socio-chrétiens et socialistes, il a gouverné entre 90 et 94. Et à cette époque-là, il fait une commission qui va se charger de démanteler la presse progressiste. Et je suis vraiment désolé de devoir le dire, mais il n'y a pas un autre mot. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et ils savaient qu'une partie des ressources de la presse venait de l'Europe. Ce n'était pas énorme, c'était de l'ordre de 10 à 15%, notamment des ONG hollandaises. Ils ont envoyé des missions en Hollande convaincre ces ONG d'arrêter tout subside à la presse, disons, avec sensibilité sociale au Chili, et ils ont réussi. Ce n'est pas tout. Et ils refusent toute publicité, on le sait, mais encore, ils utilisent des fonds réservés de l'État pour acheter les actions de ces journaux et les mettre en faillite. Donc là, il n'y a pas de doute, c'était une opération avec subside de démantèlement de la presse progressiste. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et on arrive à une situation paradoxale. Et au Chili, il y avait beaucoup plus de pluralisme dans la presse les trois dernières années de la dictature qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, El Mercurio et Copesa dominent 95% de la presse écrite. C'était loin d'être le cas en 1989, par exemple, où ils avaient moins de la moitié. Oui, maintenant...
Et au niveau, par exemple, des télévisions, radio, du secteur audiovisuel, c'est un peu la même situation ?
Au secteur de la télévision, en fait, il y a 400 grandes chaînes, mais une seule publique. Les autres sont plus ou moins privées. Le système, jusqu'au coup d'État, c'est que les télévisions, c'était les universités qui les avaient. Et l'État subsidiait les universités, parce que la philosophie, au départ, c'était de faire des télévisions un grand outil d'enseignement, d'éducation populaire. Maintenant, c'est loin d'être le cas, même si l'Université catholique en a une, formellement, elle est contrôlée par une corporation privée et où l'audimat règne. En fait, les Chiliens disent en rigolant que les films ou que la publicité est parfois interrompue par des morceaux de films. Et donc, où la publicité règne, la mauvaise télévision anglo. Mais maintenant, la télévision publique, c'est une télévision qui, avec l'une ou l'autre exception, parfois il y a des bons programmes, c'est une télévision aussi où l'audimat règne et il fait des émissions du même type où on enferme des gens dans ses maisons et on les filme. Enfin, c'est ce qu'on voit ici. Et il faut dire que tous les grands films sur l'histoire de Chili, je vais citer celle de Patricio Guzmán, comme Les Capinochés, La mémoire obstinée, La bataille de Chili, ou comme celle connue en Belgique de Ronnie Ramirez, le fantôme de la Victoria, qui a gagné 9 prix, je pense, en Europe, je pourrais citer d'autres, si en France, n'ont jamais été projetés par la télévision publique chilienne. Jamais, et il y a là, plus que pratiquement un boycott, à tous les documentaires ou films à vocation sociale. Et ce n'est pas une question de marché, parce que chaque fois qu'ils passent par les câbles payantes, l'audimat est très bon. Et donc les Chiliens souhaitent voir ça. Là, il y a plutôt un veto politique quelque part, et il serait temps que la télévision publique montre ces documentaires qui sont d'une très grande qualité. Ils ne sont pas interdits. Dans les circuits alternatifs, et dans des petites salles, parfois, il y a des gens qui les regardent. Les cassettes circulent, mais la télévision publique, jusqu'à présent, refuse de les passer.
Et les autres télévisions privées, à part celle de l'université, la catholique, elles appartiennent à des grands groupes, je suppose. Des grands groupes économiques.
Ils appartiennent à des grands groupes économiques. Le même que vient de citer, je pourrais citer le nom de Ricardo Claro, qui était un des seuls civils mêlés au coup d'État militaire. Donc c'est lui qui a prêté des bateaux, qui est d'une société de navigation privée, pour en faire des bateaux prison. Donc c'est quelqu'un qui est lui-même associé au coup d'État.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
On va maintenant parler de l'affaire Clarine. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est cette affaire Clarine et globalement le combat de Victor Peille ?
C'est un des grands espoirs de la, pour les pluralismes de la presse. Le Clarine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était les quotidiens pro-Allende les plus vendus au Chili, et donc qui était un quotidien plutôt populaire mais légèrement à gauche. Et Victor Peille, qui était un exilé espagnol arrivé au Chili en 1939, pour ceux qui connaissent l'histoire avec les bateaux Winnipeg organisés par Neruda, et donc qui était proche d'Allende, de Neruda et de la gauche chilienne, avait des capitaux et à la demande d'Allende, il achète le Clarín à son propriétaire qui souhaitait les vendre. Il faut dire que son propriétaire, ahí, du côté de la droite, a proposé le double. Peille l'a acheté à peu près par $1,200,000. Mais il tenait à les vendre à quelqu'un qui était quand même dans ses mouvances progressistes. Au moment du coup d'État, les militaires s'emparent, s'approprient de l'imprimerie. Il avait une nouvelle imprimerie qui venait d'arriver, donc il a beaucoup investi dans le Clarín, des locaux, etc. Il y a le directeur est arrêté, torturé, Gamboa. Et finalement, l'État s'approprie de cet investissement. Alors, l'année 86, Peille demande à l'État de négocier une indemnité importante, parce qu'il n'y a pas seulement, bien sûr, les matériaux, les imprimeries, les locaux, mais il y a aussi tous les manques à gagner. Et le Clarín était très bénéficiaire, donc les propriétaires del Clarín gagnaient beaucoup avec ça. Et il faut les manques à gagner pendant 30 ans, plus les intérêts, ça fait beaucoup. Donc ça fait, selon Peille, exactement $512 millions. Alors, l'État chilien refuse. Il a dit, en fait, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec lui, il a été en Belgique récemment, et il a dit, si c'était pour moi, je le serais peut-être. Mais dès que j'ai annoncé que ce n'était pas pour moi, le montant n'était pas pour moi, mais ça devait servir à relancer El Clarín, El Mercurio a fait une levée de bouclier, pas question de perdre mon monopole en réalité, et il exerce des pressions énormes sur l'État pour que l'État ne cède pas en fait à la demande de Peille. Finalement, l'État chilien piétine, dilate les choses. Peille avait donné une échéance, 6 mois, et pour répondre aux 6 mois, il va en fait à une cour d'arbitrage des investissements qui dépend de la Banque mondiale, qui se trouve à Washington. Et les procès sont très commerciels, sauf que si on sait que l'avocat de Peña Joan Garcés, en fait, c'est le même qui a monté, qui a trouvé la législation pour établir les cas Pinochet, et qui était un conseiller d'Allende. Mais Pei dit, voilà, je suis un investisseur étranger qui a fait un investissement au Chili. Les capitaux venaient effectivement de l'étranger, parce qu'ils sont transités par des banques des pays de l'Est, de Yougoslaves et Tchécoslovaques. Donc il y a un étranger qui fait un investissement au Chili, l'État détruit son investissement, donc je demande une indemnité. Et c'est dans ces termes que les procès est posé maintenant entre Pei et l'État chilien. L'État chilien est d'aujourd'hui, donc le gouvernement Lagos, a dépensé, selon Pei, environ 30 millions de dollars à payer des équipes d'avocats à Washington contre lui, parce que, à cause des pressions del Mercurio. C'est vraiment incroyable, parce que s'il veut l'avoir en quotidien, c'est très facile, il suffit de perdre les procès. Et cependant, donc, le procès est en cours. Pei attend en fait une conclusion pour la fin de cette année. Il y aura une seule sentence qui est inappelable d'ailleurs. L'État chilien dit que Pei n'est pas un étranger parce que pendant une période il a eu la nationalité chilienne mais qui a été enlevée par la dictature. Non, maintenant ils veulent le restituer à tout prix la nationalité chilienne parce que c'est un des composants du procès et sur l'origine des capitaux, que les capitaux venaient de Chili, ils sont partis après les étrangers. Disons la défense de l'État chilien se va sur ces questions. Mais l'essentiel c'est que l'actuel gouvernement de la concertation donc, a un certain soutien del Mercurio la Tercera, et ils ne veulent pas, et là il faut reconnaître la réalité, une presse qui évoque, ne fût-ce que de manière partielle, les questions des droits de l'homme, les questions sociales. Donc parce que El Clarín, ça sera, s'il existe un jour un journal un peu de centre-gauche, un peu comme El País, disons quelque chose de ce type. Mais même ça, ils ne veulent pas, donc El Mercurio veut être lui, c'est lui qui crée l'opinion publique. Et pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, il y a de nouveau donc, certains hebdomadaires progressistes qui se font avec beaucoup d'efforts. Punto Final qui existe grâce au travail bénévole de beaucoup de journalistes. Il y a un nouveau hebdo dans la mouvance démocrate chrétienne, 7+7, 7+7. Un autre qui s'appelle El Journaliste, un journal culturel, El Rocinante. Mais, qui sait, c'est bien, c'est un progrès, mais c'est lui qui crée l'opinion publique aujourd'hui, c'est El Mercurio la Tercera, c'est lui qui impose les sujets à traiter. Les autres, c'est une petite presse contestataire, mais enfin, à des tirages encore très réduits. Et ce qu'il faut pour que la démocratie revienne un jour au Chili, c'est d'avoir quand même un journal progressiste, laïque, qui puisse donner aussi son avis. Parce que rappelons qu'El Mercurio est aussi dans la mouvance de l'Opus Dei.
Tu as expliqué un peu le rôle de la presse dans la déstabilisation d'Allende, dans la dictature de Pinochet. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui justement le rôle de la presse un peu plus au nord, vers les Caraïbes, au Venezuela, dans le coup d'État d'avril 2002, dans le lockout patronal et le sabotage pétrolier de décembre 2002 et janvier 2003, et globalement dans toute la campagne contre la dite révolution bolivarienne, contre Chavez. Comment est-ce que tu vois la presse aujourd'hui? Tu avais d'ailleurs écrit au moment du coup d'État un article sur les médias dans la Libre Belgique.
Oui, l'article, c'était une critique en fait à la RTBF qui a, pendant une journée, il faut dire, soutenu, mais ensuite ils ont changé d'avis, ils ont reconnu la faute. Les méthodes de déstabilisation de Chavez sont identiques aux méthodes qui ont été utilisées contre Allende en 1982. Donc, les systèmes de lancer des mensonges différents qui changent tous les 2-3 jours, donc il n'y a pas le temps de répondre, de constituer un dossier, répondre sérieusement, mais d'un très haut débit de mensonges, est pratiquement le même au Venezuela. Donc, c'est des systèmes qui disent voilà, qu'il est criminel, qu'il est voleur, qu'il y a une invasion cubaine, un port soviétique, des milices un peu partout, une guérilla qui entoure le pays. Mais même les sujets étaient les mêmes. Donc, à mon avis, si on cherche, on va peut-être trouver les mêmes conseillers. Mais finalement, ces méthodes ne cherchent pas à informer, mais à mettre dans les les unes des journaux, ils mensongent que pour que les gens les lisent et qui changent ensuite très vite. Donc il y a pas, on n'a pas le temps de répondre. Ils ne cherchaient pas un débat. C'est simplement un bombardement de mensonges. Mais les méthodes contre Allende étaient donc exactement les mêmes. Si on ajoute à celles-là donc aux tentatives de grève de tous les syndicats ou les organisations corporatistes des classes moyennes, comme les dentistes, les avocats, les comptables, enfin tous ces activités. Et donc des techniques de déstabilisation économique afin de créer une crise et ensuite rendre les gouvernements responsables de la crise.
Est-ce que tu penses finalement qu'entre l'époque guerre froide et la lutte contre le danger communiste et aujourd'hui, les méthodes ont vraiment changé du côté des États-Unis ?
Ça fait 200, j'aurais tendance à répondre peut-être, mais après la tentative de coup d'État au Venezuela en avril de l'année passée, je dirais non. Parce que ce qui m'a surpris, c'est que c'était une première tentative de coup d'État, comme il y en a eu plusieurs, mais c'était la première tentative de coup d'État après la fin de la guerre froide. Donc ça veut dire que la nouveauté était là. Non, les méthodes de la guerre froide, en fait, n'ont pas terminé, et alors que les réformes que Chavez avance sont quand même assez modérées. Donc c'est même un peu de bon sens, la réforme agraire, quelques réformes sociales, parce que les inégalités au Venezuela, comme dans d'autres pays de l'Amérique latine, sont énormes. Donc, même contre cela, il y a une tentative de coup d'État. Donc, je pense qu'il y a une discussion fondamentale. Est-ce que l'information est une marchandise comme tous les autres ? Est-ce que vendre des saucisses ou vendre des voitures ou vendre des informations, c'est la même chose ? Ma réponse est que non. C'est que l'État doit quand même assurer la possibilité de s'exprimer dans les médias à tous les secteurs organisés de la société, par exemple. Et l'État doit assurer, doit gérer le pluralisme dans la presse.